Salut à vous, peuple d'Ardèche, et bienvenue dans L'Onde Curieuse, notre magazine d'infos loquace et locale. Bonjour Sophie.
Bonjour Quentin, bonjour Sylvain.
Bonjour vous deux.
Quelle joie. Ça doit être parce que les bulletins de météo de France Télévisions ont évolué. On va peut-être faire la même chose sur Fréquence 7. Maintenant, oui. Sur France 2 et sur France 3, ils intègrent un volet pédagogique sur les réchauffements climatiques.
Oui, avec des jolis diagrammes colorés qui montrent bien qu'on est dans le rouge jusqu'au cou. Et puis, il y a aussi des climatologues qui répondent aux questions du public.
Ben oui, par exemple, chers téléspectateurs et tristes, le temps est bon, le ciel est gris, la petite pluie de cette nuit a rafraîchi les sols, mais sûrement pas de quoi faire déborder le Rhône. D'ailleurs, Sophie à Aubenas a une question pour nous.
Oui, j'ai une question. Si le niveau du Rhône est en baisse, comment on va refroidir les réacteurs nucléaires qui nous conduisent vers un futur verdoyant et sans CO2 ?
Eh bien, Sophie, nous te répondrons dans un instant, dans la seconde partie de cette émission, puisque l'Onde Curieuse aujourd'hui est dédiée à une réflexion sur l'énergie nucléaire.
Waouh ! Mais pour le moment, quelques actualités d'ici.
Et on commence avec des offres d'emploi, enfin des offres de services civiques qui permettent aux associations de survivre tout en employant des jeunes motivés. D'ailleurs, en allant chercher Super Nouvelle, les services civiques sont comptés dans les trimestres pour vos retraites.
Alors première offre, c'est 2 postes en service civique pour l'association Paillolive à Gros-Pierre qui vise à préserver et étudier le bois de paillolive et sa surprenante diversité. Alors la mission, il y en a plusieurs. D'abord contribuer à l'inventaire général de la biodiversité de paillolive et des gras. Participer à la campagne de sensibilisation des vacanciers à la fragilité des milieux aquatiques, bon courage, et poursuivre l'étude de la biodiversité aquatique et souterraine et la sensibilisation auprès du public. C'est un service civique de 8 mois et c'est à partir du 2 mai.
Et il y a une deuxième offre, c'est pour l'association Elviorum qui gère l'archéosite de Randa Ardesca à Saint-Alban-d'Auriol. C'est donc le village gaulois et les constructions d'habitations et d'ateliers du néolithique. La mission du service civique, c'est de contribuer à faire connaître l'offre d'un archéosite au grand public, vulgariser l'histoire et l'archéologie locale par le biais d'animations historiques.
C'est un super site.
Ah ouais, c'est un endroit génial.
Ouais. Et c'est Saint-Alban-Auriol.
C'est Saint-Alban-Auriol, ouais.
Auriol.
Et du coup, service civique de 8 mois, ça commence le 17 avril. Pour ces 2 offres, vous trouverez les infos et les détails sur le site officiel des services civiques, ou auprès des associations Paillolive et Helviorum.
Hier, c'était l'inauguration d'une très jolie expo à l'espace Envol à Privas. Copains du monde. C'était des œuvres peintes par une 60aine d'enfants réunis en août dernier par le Secours populaire à Maïr. 30 gamins de Rhône-Alpes rencontraient 30 copains du monde venus du Mali, d'Irak, du Burkina Faso, de Grèce, etc.
Et oui, et pendant 10 jours, ils ont donc eu des activités sportives, loisirs, tout ça, et ils ont créé en commun différentes œuvres avec le soutien des artistes Natimo et Oxalarina. Et le résultat, leurs mots le disent aussi bien que leurs peintures. On lit du coup sur la page de l'espace Envol, des enfants qui vivent un tableau hallucinant, impressionnant, qui expriment, se libèrent, apprennent à aimer au lieu de se haïr et de se taire. Au-delà de la barrière de la langue et de la culture, on y voit la belle nature, l'aventure, un point commun à tous ces enfants, tous égaux, tous différents, chacune et chacun exceptionnel et passionnant.
Expo à voir jusqu'au 31 mars à l'espace Envol à Privas, dépêchez-vous.
Une autre nouvelle intéressante, c'est le nouveau mode d'action non violente des retraités CGT à Annonay.
Oui, ils sont allés placarder sur toutes les entreprises une demande exigeant de connaître le montant des aides publiques touchées et l'imposition des dividendes et des bénéfices.
Alors c'est pas grand chose comme action, mais j'ai trouvé ça rigolo parce qu'il y a un message de fond, donc une exigence de transparence de la part du public pour savoir un peu que devient l'argent public dans les entreprises privées. Et puis ça change un peu des manifs ennuyeuses et stériles, c'est mon cheval de bataille du moment. Je vous propose de continuer en musique, ouais ça te va ?
De la douceur, ouais là-dessus.
Thank you.
C'était On My Shoulders, extrait du premier album de The Do, le groupe français du coup de pop parisien, formé en 2005. Ce premier album date de 2008 et le groupe s'est séparé en 2021. Je vous invite à suivre les aventures de la chanteuse Olivia Merilati, qui a quand même une énergie incroyable.
Ouais, qui me fait beaucoup beaucoup penser à PJ Harvey, moi.
Tout
parce
à
que
fait.
Je te disais, notamment dans, sur le premier album To Bring You My Love.
Ouais.
C'est vraiment une belle. Ah, j'adore aussi. Mais vous auriez vu Quentin les yeux fermés en transe. Ça donnait du baume au cœur pour la suite. Il va en falloir.
Et oui, du baume au cœur pour la suite, puisque l'actualité, c'est le nucléaire en fait. Hein. On a célébré le 11 mars l'anniversaire de Fukushima.
Ouais, qui était donc le 11 mars 2011.
Ouais, c'est ça, ça fait 12 ans déjà qu'on a eu ce souci-là. Et du coup, c'est aussi le moment que choisit le gouvernement pour soumettre au Sénat, donc ça c'est déjà fait, et maintenant à l'Assemblée nationale, le projet de loi de simplification et d'accélération du nucléaire. Donc, qui est censé nous faire rentrer dans une nouvelle époque de production d'énergie nucléaire, alors même qu'on essaye un peu de s'en dégager et de favoriser des énergies réellement renouvelables.
Et justement, du coup, on a eu envie de vous faire entendre une prise de son qui a été faite justement au salon Prime Vert, dont on vous a déjà parlé, puisque Quentin était là au salon Prime Vert, salon des initiatives alternatives, écologiques, etc.
Et du coup, on a rencontré Patrick Monet parmi toutes les personnes présentes. Patrick Monet, c'est le président de l'association Rhône-Alpes sans nucléaire. C'est une interview qui a été menée par notre journaliste indépendante et gratuite Nora L'Avenir, et c'est accompagné par nos commentaires en studio.
Donc c'est Nora L'Avenir pour Fréquence 7 dans le cadre de Aura FM, et nous accueillons aujourd'hui l'association Rhône-Alpes sans nucléaire, et c'est son président Patrick Monet qui va nous en parler. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer, me présenter un petit peu votre association ?
Alors l'association Rhône-Alpes sans nucléaire est une association locale qui est centrée plutôt sur Lyon maintenant, qui fait partie du réseau Sortie Nucléaire, qui est une fédération d'ateliers qui a aussi son siège à Lyon. Et donc avant 1997, cette association s'appelait Comité Malville. Elle est née vers les années 1975, et il y a eu des grosses manifestations à Malville en 1976 et 1977. Et puis en 1990, grâce à Dominique Voynet, puis aux militants contre le nucléaire, le réacteur Super Phoenix de Crémalville a été arrêté juridiquement. Et donc l'association a changé de nom et passé de Comité Malville à Rhône-Alpes sans nucléaire.
D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cet engagement contre le nucléaire ?
Alors au début, pour moi et puis pour l'ensemble des membres de l'association, on s'est très vite rendu compte que l'énergie nucléaire était une énergie très centralisée, très dangereuse et qui pouvait avoir des conséquences sur un très long terme, notamment par les déchets de combustible qui seront dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et donc nous avons très vite, nous sommes opposés au nucléaire pour avoir des énergies beaucoup plus décentralisées et beaucoup plus ouvertes au public.
D'accord. Et qu'est-ce que vous dites aux personnes qui pensent que le nucléaire est forcément essentiel dans notre société aujourd'hui, que du coup les énergies renouvelables ne sont pas assez présentes et qu'on a forcément besoin du nucléaire? Qu'est-ce que vous leur répondez?
Alors la France a fait un choix en 1973-14 avec Pierre Messmer, qui était Premier ministre à la fin du règne de M. Pompidou. Il a choisi le tout nucléaire avec l'aide des comités pro-nucléaire. Dès cette époque, nous sommes opposés parce qu'il y avait d'autres solutions, et notamment de développer les énergies renouvelables. Alors, le passé est le passé. On a à l'heure actuelle un parc nucléaire de 56 réacteurs en France. Il y a d'arrêter une douzaine de réacteurs d'arrêter, notamment tous ceux de la filière graphite gaz, donc la filière française, et puis deux réacteurs à eau pressurisée de Fessenheim. Donc tous les 56 réacteurs qui restent en activité, enfin quand je dis en activité, c'est qu'ils sont officiellement en activité, certains sont en panne, sont arrêtés, mais officiellement il y a 56 réacteurs en activité. Ce sont tous des réacteurs sous licence américaine qui marchent en France. Alors si on veut vraiment changer de politique, on peut s'inspirer, et nous ça a été un soulagement, enfin une aide exceptionnelle, le scénario Négawatt qui est paru depuis 2006 et qui a évolué à chaque année précédant les élections présidentielles. Négawatt a amélioré son scénario Et en 2021, RTE, le réseau de transport d'électricité, donc la partie qui est restée publique de EDF, qui s'occupe du réseau très haute tension et moyenne tension, a sorti un rapport M0 qui est 100% renouvelable en 2050, de même que l'ADEME, l'Agence de développement et de maîtrise de l'énergie, a sorti aussi un scénario S1 qui nous permettra d'arriver à 100% renouvelable en 2050, sans problème technique, mais simplement avec une exigence de décision politique. Et donc c'est pour ça que nous croyons qu'on peut quitter le nucléaire. Alors pourquoi le nucléaire nous gêne tant? C'est parce que le nucléaire est très centralisé. Nous importons 100% des minerais depuis 2001, donc qui viennent de pays souvent sous-développés, comme le Niger, mais aussi le Kazakhstan, une ancienne république soviétique. Et de plus, il y a beaucoup de déchets tout au long de la gestion de ce combustible, de la mine jusqu'au dépôt de déchets usés. Il y a d'énormes quantités de déchets qui seront dangereux pendant des centaines de milliers d'années. Et on ne veut pas laisser à nos enfants, nos petits-enfants et aux gens qui nous succéderont dans 100 000 ans des déchets qui seront dangereux. Donc c'est une des raisons pour laquelle on est contre le nucléaire.
Quel est votre programme? Comment on pourrait aller doucement en fait, vers ces énergies renouvelables, ralentir le nucléaire, parce que ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain? Quelles sont les possibilités pour vous?
Alors, pour nous, donc, le scénario de mégawatts dont on s'inspire prévoyait en 2006 la sortie du nucléaire en 2035. Ça ne sera certainement pas possible. Eux disaient, on ne construit plus aucun... Et ce qu'on veut, c'est ne plus construire aucun réacteur nucléaire, mais investir dans la sobriété. Donc, la sobriété, c'est un choix personnel pour chaque action que l'on fait de choisir la moins polluante au niveau énergétique. L'inefficacité énergétique, c'est-à-dire choisir du matériel qui est plus économe que d'autres. C'est-à-dire que moi, quand je me déplace en vélo, mais je conçois que d'autres personnes peuvent se déplacer en voiture. Mais si on se déplace en voiture, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un SUV qui fait 1,6 tonne, ou ne pourrait-on pas avoir le même service de transport avec une voiture qui fait qu'une tonne et donc qui consomme beaucoup moins d'énergie? Donc voilà. Et puis ensuite, les énergies renouvelables. Alors, il faut rappeler que la France, en 2021, est le seul pays qui n'a pas atteint les 22% d'énergie renouvelable dans son mix énergétique. On est le seul en Europe à être en retard au niveau des énergies renouvelables. Et c'est vraiment, les énergies renouvelables sont l'avenir, puisqu'une fois installées, elles ne produisent pratiquement aucun déchet et ne demandent pas de combustible. Mais simplement, c'est le soleil ou le vent qui sert de combustible.
Ouais, je voulais faire une petite précision là-dessus. Alors, c'est vrai que les énergies renouvelables sont sans doute l'avenir, mais il disait que seule la France n'avait pas réussi à tenir ses 22% d'énergie renouvelable dans la consommation finale. Mmh. Et ben, c'est pas tout à fait exact.
C'est-à-dire qu'il y a d'autres pays qui sont aussi à la traîne.
Exactement, ouais. La France, la moyenne européenne est à 21,8, hein, on parle de 2021, donc 21,8. La France, effectivement, est à 19,3, mais il y a d'autres pays, l'Allemagne, c'est pareil, hein, moi il me semblait bien avec le... la montée du charbon, des centrales de charbon, l'Allemagne, c'est 19,2%, donc la même chose en fait qu'en France. Il y a aussi des pays comme la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas qui ont une part encore moindre, oui, de l'énergie, des énergies renouvelables dans la consommation.
Mais il y a quand même des exemples positifs qui peuvent nous montrer que c'est faisable.
Mais complètement. Et il y a justement, notamment dans les pays du Nord, hein, la Suède, on rappelle, la Suède, c'est 62% de son mix énergétique, de sa consommation d'énergie qui est composée des énergies renouvelables. Il y a donc la Suède, c'est elle qui fait péter tous les scores, mais il y a aussi la Finlande, bien sûr, avec 43%, l'Estonie, enfin tous les pays du Nord, Estonie, la Lettonie et aussi l'Autriche qui est à 38%. Voilà, c'était une petite...
D'accord. Moi, ce que je voulais noter, c'est par rapport à ce qu'il disait un peu plus tôt sur l'idée que le nucléaire était très centralisé et qu'on était terriblement dépendant de facteurs extérieurs à nos frontières et à toutes circonstances environnementales, que ce soit l'extraction d'uranium, le matériel, etc., alors qu'on pourrait très bien avoir une production nationale d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques. C'est déjà un peu le cas. Ils attendent que d'être subventionné. On continue l'entrevue ?
On continue.
Alors nous, on est vraiment là pour alerter la population, pour se faire entendre, parce qu'on se rend compte à l'heure actuelle que depuis le 10 février 2022, après le discours à Belfort, en même temps que l'enquête du Comité national du débat public a commencé le 27 septembre, et en fin d'année 2022, le gouvernement a lancé un projet de loi pour fixer les objectifs d'une nouvelle politique nucléaire. Et le 24 janvier 2023, le Sénat a donné son accord pour cette loi, pour favoriser le développement rapide au niveau administratif des centrales nucléaires. Et aussi, le Sénat a aboli le fait qu'en 2015, la France s'était engagée à avoir en 2050 que 50% d'énergie nucléaire. Le Sénat a aboli cette loi. Et ce qui est très scandaleux, puisqu'il y a une enquête d'utilité publique qui est en cours, qui se terminera certainement fin février, et pendant ce temps, le gouvernement fait voter des lois pro-nucléaires. Donc il y a une contradiction réelle de la démocratie à ce niveau qui nous choque.
Oui, alors ça mérite un petit point d'actualité, puisque il parlait de l'action du Sénat, mais aujourd'hui, enfin depuis hier, c'est l'Assemblée nationale elle-même qui a ratifié tout ça. Alors vas-y, explique-nous un petit peu, Quentin, où on en est.
Ben, c'est un bel exemple de la pratique démocratique à la sauce Macron, là, puisque du coup, on n'a même pas pris le temps de faire étudier un texte préalable à l'Assemblée nationale. Donc je rappelle que ce projet de loi, c'est la loi d'accélération du nucléaire. Ça vise notamment, du coup, à réinstaller 6 EPR à l'horizon 2035. C'est l'idée, c'est d'aller vite et de quitte à bâcler quelques thèmes, et donc on a choisi de le faire d'abord approuver par le Sénat en première lecture et de ensuite le soumettre à l'Assemblée nationale. C'est un peu ce qui s'est passé avec la loi de la réforme des retraites. Il a été soumis à l'Assemblée nationale selon la procédure classique. On a vu qu'il y avait trop d'amendements et que personne n'arrivait à se mettre d'accord. Du coup, boum, le Sénat, c'est facile, ils sont vieux, ils sont de droite, ils ont dit oui. Et ensuite, on le repasse à l'Assemblée nationale.
À une très large majorité. Ils ont dit oui, à une très large majorité. Ouais. J'ai plus les chiffres, mais je pense que c'est plus de 70%.
Et donc, si l'Assemblée nationale n'arrive toujours pas à se prononcer, ce sera peut-être encore l'objet d'un nouveau 49-3, parce que c'est un projet qui tient beaucoup au gouvernement, qui tient beaucoup à cœur au gouvernement, là, ce projet de loi sur l'accélération du nucléaire.
Alors, moi, il y a surtout un point. C'est l'un des derniers points, mais un point qui me glace, là, on en parle, c'est concernant la sûreté nucléaire, mmh. avec la fusion, puisqu'on est dans le nucléaire, avec la fusion de deux institutions, deux organismes, un organisme de recherche et d'expertise et un organisme régulateur, donc décisionnaire. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ?
Bah oui, on en avait parlé il y a quelques semaines déjà dans l'Onde Curieuse, ça avait fait un peu une onde de choc. C'est que du coup, d'un côté, il y a l'IRSN, donc l'Institut... l'IRSN, c'est ça, l'Institut de... Pardon, j'ai un problème de radioprotection et de sûreté nucléaire, qui lui est indépendant et composé vraiment d'experts et de chercheurs. Il rend son expertise à l'autorité de sûreté nucléaire, qui elle ensuite prend des décisions en fonction des facteurs économiques, politiques du moment, voilà. Et l'idée de faire disparaître l'IRSN et de l'intégrer à l'ASN, ça inquiète beaucoup de gens sur notamment l'indépendance entre la fonction de régulation de l'ASN et celle de l'expertise de l'IRSN. C'est un des pans de cette loi, mais globalement tous les côtés de cette loi visent à simplifier
et à fluidifier selon le joli mot.
Et ben ouais, alors l'idée donc c'est favoriser la construction de nouveaux réacteurs, donc notamment en dispensant de permis de construire les installations et les travaux de création des nouveaux réacteurs. L'idée c'est d'agrandir donc les centrales nucléaires existantes. Pour cela, donc ne pas ajouter un délai de 2 à 3 années à la construction d'un réacteur. Les deux prochains EPR sont censés être implanté en Seine-Maritime à Penly et suivi de 2 autres à Gravelines dans le Nord. L'idée serait donc de commencer à couler du béton en 2027 et une mise en service en 2035-2037, ce qui nous laisse quand même le temps d'avoir quelques soucis. Un autre pan de cette loi, c'est de simplifier la procédure de réexamen périodique des réacteurs de plus de 35 ans, puisqu'on sait que notre parc nucléaire date des années 70, que c'était recommandé de le démanteler au bout de 40 ans. Là, cette échéance est largement passée, et en fait, on a de plus en plus de failles, mais quand même, le gouvernement aimerait qu'on se penche, et idéalement rapidement et sans trop regarder dans les détails, sur la possibilité de prolonger la durée de vie de notre parc nucléaire. Et voilà, donc.
Et voilà. Et une dernière chose aussi, ce dont faisait référence notre invité, c'est l'abandon de l'objectif de réduction à 50% du nucléaire dans le mix électrique. Ouais. Et donc, c'est ce qu'il a dit, hein. Le Sénat a effectivement abandonné ce plafond et les parlementaires ont emboîté le pas. C'est-à-dire que, en gros, on pourra avoir un mix de composé de 70, 75, 80% de nucléaire.
Oui, c'est ça. C'est qu'on abandonne même un peu l'idée du mix dans le sens d'un vrai cocktail. C'est plutôt voilà 100%
majorité,
nucléaire,
ouais.
Saupoudré d'énergie renouvelable. On rappelle qu'en 2021, le nucléaire représente plus de 75% de notre production d'énergie primaire.
D'électricité. Alors, ouais. Et ça, c'est. Mais on n'en dit pas trop parce que dans la suite, ils vont lui dire. Effectivement, c'est 75% de l'électricité, mais en réalité, beaucoup moins en termes d'énergie. C'est-à-dire, c'est de 16 à 17% d'énergie qui est produite par le nucléaire. Mais on poursuit.
Et comment vous, par votre association, vous arrivez à lutter au niveau, par exemple, de la communication? Parce que c'est vrai que ce que vous me dites, il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément au courant. Moi, je n'étais pas au courant non plus de tout le détail. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer cette action, faire comprendre en fait l'alerte qu'il y a sur cette situation?
Alors nous, au niveau de l'action, bon, on fait des manifestations, des tables de presse dans certains lieux, souvent sous invitation d'organismes ou de collectifs. On essaie de distribuer dans la presse un peu d'informations. On fait partie aussi du réseau Sortir du Nucléaire, donc, qui lui envoie des communiqués de presse régulièrement. Et autrement, c'est vrai qu'on a posé un cahier d'acteurs sur le problème de l'eau et de l'EPR2, donc les projets qui ont été signalés le 10 février 2022, les projets d'EPR2. Quels seront les problèmes d'eau qui vont être provoqués par la construction de nouveaux réacteurs nucléaires? On a fait un cahier d'acteurs auprès de la Commission nationale des débats publics. Après, c'est vrai qu'on est une petite association, qu'on n'a pas. Alors, on participe au débat d'utilité publique aussi sur la centrale du budget, mais on a des moyens d'action limités et on n'est pas très très nombreux au niveau de la population qui s'intéresse à ce problème. Mais dès qu'on approfondit, dès que quelqu'un veut nous consacrer quelques minutes et qu'on a le temps d'expliquer les choses, la plupart des gens se font du souci parce qu'ils n'avaient pas compris l'impact que peut amener le nucléaire dans la société française au niveau des dangers, donc déchets sortant des centrales nucléaires, stockage des déchets venant des combustibles usés, puis aussi le risque d'accident. Le risque d'accident a été très, très ressenti après le 11 mars 2011 suite à Fukushima, et beaucoup de gens se sont inquiétés, mais depuis les gens ont oublié, alors que les conséquences de Fukushima ou de Tchernobyl sont toujours présentes. On a toujours des gens qui vivent en zone contaminée, on a toujours des zones interdites à la population parce que c'est trop contaminé, donc on détruit des zones géographiques de par la radioactivité. C'est extrêmement, extrêmement inquiétant.
Le problème aussi auquel vous vous confrontez, j'imagine, c'est qu'on dit aussi le nucléaire a cette image-là de création d'énergie qui ne pollue pas énormément en dehors des déchets. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui sont pour le climat, pour l'écologie, pour un environnement plus durable et respecté, qui vont quand même aller vers le nucléaire parce que voilà, il n'est censé concrètement pas polluer. Alors qu'en fait, si. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là?
Alors, il y a une confusion qui est maintenue par les pro-nucléaires, donc le lobby pour le nucléaire, entre les émissions de gaz à effet de serre, qui sont un élément, qui sont facteurs de réchauffement de la planète, mais qui ne sont pas une pollution par eux-mêmes. Et la pollution réelle, c'est deux choses différentes. Les réacteurs nucléaires, enfin, la filière énergétique nucléaire émet, enfin, selon les spécialistes, entre 50 et 120 grammes de CO2 par kilowattheure. Et pourtant, le GIEC prend 12 grammes de CO2 par kWh parce qu'ils ne prennent que la partie de gaz à effet de serre qui ont été nécessaires pour construire les réacteurs et pour leur utilisation. Or, avant d'arriver dans le réacteur, le minerai a beaucoup dépensé d'énergie. On prend par exemple la mine d'Arlite au Niger. C'est un site où il y a une grosse mine d'uranium qui est encore près de 25% de notre approvisionnement annuel, où l'électricité fournie l'est par une centrale à charbon. Donc la pollution de cette centrale à charbon doit être incluse dans les coûts de CO2 du nucléaire, puisque c'est bien le charbon qui permet d'exploiter le nucléaire. Ensuite, il faut rappeler que dans une mine d'uranium, elles sont exploitées environ jusqu'à 0,2% d'uranium dans la masse de roches et de terres extraites. Donc il y a un gros travail mécanique et chimique, et donc il y a une grosse émission d'acide, de différents produits, d'explosifs. De même, dans les centrales nucléaires, il y a beaucoup d'émissions de tritium, donc c'est un isotope de l'hydrogène, donc qui va se coupler avec l'oxygène pour faire de l'eau, qui aura les mêmes propriétés chimiques que l'eau, mais qui sera radioactive. Et donc, on a sur le Bugey, donc la centrale du Bugey à 25 km en amont de Lyon, on a gagné plusieurs procès à ce niveau-là, parce que la centrale émettait beaucoup plus de tritium qu'elle ne devait en émettre. Ensuite, il y a du krypton, enfin, il y a un certain nombre de produits radioactifs qui sont émis par la toute petite cheminée qui est à côté de chacun des réacteurs. Parce que quand les tours que l'on voit, ce ne sont pas des tours c'est des tours de refroidissement. Au Bugey, par exemple, il y a 5 réacteurs. Il y en a un qui a arrêté, donc ce filière graphique gaz, qui a arrêté depuis une vingtaine d'années. Et puis il y a 4 qui sont de la filière américaine, donc à eau pressurisée. Les deux premiers ont été refroidis directement par le Rhône. C'est-à-dire qu'on prélève 45 mètres cubes d'eau par seconde qu'on envoie pour refroidir le circuit tertiaire du réacteur. Et cette eau est rejetée dans le Rhône. Et puis les deux suivants, Bugey 4 et Bugey 5, en fait, on ne prélève que 3 à 4 mètres cubes d'eau par seconde dans le Rhône. Mais cette eau, elle part en évaporation dans la cheminée de refroidissement. Et c'est ces cheminées de refroidissement qui permettent le refroidissement des réacteurs. Donc il y a une réelle émission de gaz à effet de serre. Et le réchauffement de la planète, c'est dû au gaz à effet de serre, mais c'est dû aussi aux émissions de chaleur. Et il faut savoir que la consommation d'électricité en moyenne annuelle de la France, c'est environ 1600 TWh. Le nucléaire produit en thermique 1400 TWh, mais ne va dans le circuit électrique qu'environ 350 TWh. Alors, je parle jusqu'à l'année 2021, parce que l'année 2022, avec tous les problèmes techniques qui ont eu lieu dans le nucléaire, le nucléaire n'a produit que 279 TWh. Donc c'est 82 TWh de moins que les années précédentes. Mais dans cette production, donc il y a les deux tiers de la chaleur qui est produite par le réacteur nucléaire, qui va dans les fleuves ou dans l'eau, et ça représente 800 TWh au niveau national, c'est-à-dire 12 000 kWh par habitant. 12 000 kWh. C'est bien plus que ce que consomme chaque foyer. Donc c'est comme si chaque foyer avait dans sa cour des radiateurs pour 12 000, pour qui émettent cette chaleur. Donc le nucléaire réchauffe aussi la planète en faisant fumer ses cheminées ou en réchauffant les fleuves. Et normalement, les fleuves en sortie de réacteur, enfin en sortie de préemption d'eau, ne doivent pas dépasser 28 ou 30 degrés. Et on a vu pendant l'été 2022, les réacteurs du Blayais émettent, enfin réchauffer l'eau de la Gironde jusqu'à 36,5 degrés. Là, il y a une attaque à la faune et à la flore qui est énorme, quoi. Ça perturbe complètement la faune et la flore. Il faut se rappeler qu'en 2003, où il y a eu des excès encore plus importants, et sur pratiquement toute la France, il y a des millions de poissons qui sont morts du fait des réchauffements de l'eau des fleuves ou des rivières, pas les réacteurs nucléaires. C'est vraiment un gros problème. Dans quelques années, même si on continue dans le nucléaire, on ne pourrait plus utiliser le nucléaire de juin à octobre, parce qu'il ferait trop chaud, on n'aurait pas d'eau pour le refroidir. Donc il faut quand même être conscient de la situation. Le nucléaire n'est absolument pas un avenir. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que dans l'énergie française actuellement, enfin jusqu'en 2021, c'est environ 16 à 17% de l'énergie consommée en France, le nucléaire. C'est pas si énorme que ça. C'est 70% de l'électricité, mais 16% de l'énergie consommée en France. Donc il faut bien qu'il y ait vraiment une politique de sobriété et d'efficacité énergétique à côté si on veut vraiment s'en sortir, parce que le nucléaire, pour nous, n'a aucun avenir. C'est-à-dire que les projets d'EPR2, on ne sait pas, ils seront peut-être construits dans 20 ans, enfin, ils vont rentrer en production peut-être que dans 20 ans, Et là, d'ici 20 ans, le réchauffement de la planète va être énorme. Donc il faut mieux se tourner vers des énergies beaucoup plus simples, comme les énergies renouvelables photovoltaïques et éoliennes, et puis aller vers la sobriété pour vraiment agir tout de suite, rapidement. On devrait, pour respecter nos objectifs de moins 55% de gaz à effet de serre avant 2030, réduire de 4% chaque année. Et si on veut réduire de 4%, il ne faut pas compter sur le nucléaire. Le nucléaire, ça sera dans 20 ans ou 25 ans que les nouvelles centrales marcheront. Donc il faut vraiment qu'on se dépêche, quoi.
Ouais. Et c'était Patrick Monnet, du coup, au micro de Nora l'Avenir. Alors, c'est pas toujours très facile à suivre, il y a énormément de contenu, il parle un peu lentement puis il enchaîne un peu d'un sujet à l'autre, par contre il y a énormément de contenu intéressant là-dedans, voilà, on retient que en gros, si vous devez retenir une information, favorisez les panneaux solaires, installez une belle éolienne bien haut en altitude, et lutter contre le nucléaire et contre les sites d'enfouissement. Du nucléaire, ce n'est pas une énergie d'avenir.
Et puis vous pouvez aussi aller voir leur site Rhône-Alpes sans nucléaire, voilà, l'association Rhône-Alpes sans nucléaire, pour avoir toutes les informations et puis éventuellement vous engager ou en tout cas vous documenter là-dessus.
Et on commence à arriver vers la fin de l'onde curieuse de ce mardi. Pour la suite des événements sur Fréquence 7 à 15h, c'est le Telex, donc vos messages au 04 75 93 30 25.
À 17h, la rediffusion de l'onde curieuse, donc pour prendre des notes sur ce que vous n'avez pas tout entendu ou tout compris.
À 18h, c'est Polémique, c'est la voix off, avec un épisode de Radio Manif sur la déforme des retraites. Si tu nous la mets à 64, on te met un 68.
À 20h, un peu dans l'esprit, Salut à toi, la rediffusion de l'anniversaire d'Albert et Greg, sous emprise.
Et du monde en studio, ouais. Et à 21h, c'est un nouveau Metal Zone qui vous attend.
Et nous, on se retrouve jeudi pour une nouvelle onde curieuse consacrée alors au Festival de la BD d'Aubenham.
Ouais, qui se déroulera le week-end prochain, les 18-19 mars, à l'Espace Lienhardt. Merci Sylvain.
Merci Sylvain, merci Quentin.
Et bah, avec plaisir Sophie, bon après-midi à toutes et à tous. Et à très bientôt, à demain peut-être dans les manifs ou pour des actions de sabotage.